Bon, d'abord, bonjour famille. Comment allez-vous? Bon, j'espère que bien, parce qu'on est dans la maison de Dieu. Et voilà, on doit se réjouir tout le temps quand on est dans la maison de Dieu. Et bon, avant de commencer, comme d'habitude, on va laisser le contrôle à Dieu, voilà, pour qu'il prenne la prêche et qu'il prenne ma vie aussi, voilà, pour qu'il soit lui qui parle à travers moi. Seigneur, d'abord, merci Seigneur pour un nouveau jour, Seigneur, que tu nous donnes une nouvelle opportunité, Seigneur. Ta miséricorde est renouvelée encore, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, nous a été accordée, Seigneur. Je te remercie parce que, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es grand, tu es bon, Seigneur. On ne peut pas finir, Seigneur, de donner, de dire, de prononcer toutes les caractéristiques, tous les attributs, Seigneur, que tu as. Prends le contrôle de notre cœur, Seigneur, de nos pensées, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, rentre, Seigneur, d'abord dans nos pensées, descende dans notre cœur et soit, Seigneur, mis en pratique, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur. Amen. Bon, aujourd'hui, on va prendre un sujet que je pense que ça nous concerne nous tous. C'est prière dans la détresse. C'est un sujet voilà, que tout le monde est concerné parce que qui n'a pas eu de problème, qui n'a pas eu une crise, qui n'a pas eu de moments très difficiles. Et prière, et faire la prière dans un moment pareil, c'est quelque chose très, très, très difficile. Et justement, pour voir un exemple dans la Bible, on va voir l'histoire d'un roi, Josaphat. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez lu, voilà, le roi Josaphat. Voilà, mais on va lire Josaphat, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Dieu. Et comment Dieu il agit. Ok, on va prendre la parole et on va se situer dans 2 Chroniques, chapitre 20. On commence par le verset 1 et 2. La parole dit: Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Saxon, Tamar, qui est en Guédi. Voilà le contexte. Josaphat. Voilà, on a déclaré la guerre. Ici, voilà, on voit une personne, voilà, un roi, où il y a trois nations qui déclarent la guerre à Josaphat. Ça, c'est le contexte. Nous, on va passer par des moments difficiles, des problèmes économiques, un problème familial, un problème avec notre couple, avec nos enfants, avec nos parents. Je ne sais pas. Une perte, une maladie. Et c'est ce moment-là, voilà, c'est le moment difficile qu'on doit prouver notre foi. On va continuer. Ça, c'est le contexte. Et des fois, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive, ce type de problème. Parce que des fois, on dit, nous, on est bons, on vient à l'église, on est des serviteurs de Dieu, on fait des bonnes choses. On fait des bons œuvres. Mais pourquoi ça m'arrive-t-il à moi? Pourquoi pour pas aux personnes du monde? Des fois, on voit les personnes du monde, des fois, entre guillemets, qui sont plus heureux que nous. Tu vois, ils ne sont pas des soucis, ils vivent la vie, je le vois tout le temps joyeux. Et nous, qui on cherche Dieu, on dit, on dirait que c'est le contraire. Parce qu'il y a des personnes qui disent, plus je cherche à Dieu, plus j'ai des soucis. Et c'est normal. Parce que le diable n'a pas attaqué une personne athée, une personne qui n'a pas Dieu. Il ne veut pas que tu sois avec Dieu. C'est pour ça qu'il va t'attaquer. Et s'il n'arrive pas à t'attaquer, dit la Bible, s'il a 100 démons qui arrivent pour t'attaquer, il va encore se renforcer, il va avoir avec 10, 15, 10 000, dit la parole. Parce qu'il ne veut pas voilà, que tu cherches à Dieu. Il va t'écarter. Et les personnes du monde, il ne va pas attaquer les personnes du monde parce qu'ils sont déjà perdus. C'est pour ça. Mais nous, des fois, on ne comprend pas pourquoi on doit passer ce type de choses. Mais le problème, ce n'est pas penser aux circonstances. Il faut se dire qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi. C'est quoi son plan? Pourquoi je dois passer ce type de choses? Et des fois, on pense que c'est parce qu'on a péché. Et c'est les conséquences des péchés. Et ce n'est pas ça. Des fois, simplement, tu dois passer des épreuves. Parce qu'il veut te fortifier dans la foi. C'est comme à Job. Job, c'était un homme exemplaire. Il n'a pas péché. Mais on a voulu tester sa foi. Et des fois, c'est ça qu'on passe, nous, et on ne comprend pas. Et des fois, on n'a pas les réponses à tout. Parce qu'on n'a pas la sagesse ni l'intelligence de Dieu. Nous, on est limités. Mais bon, on va voir après qu'est-ce qu'il passe dans le verset 3 au 5. On va voir qu'est-ce qu'il fait Josaphat. Josaphat dit, Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda et secours de l'Éternel. Ils virent de toutes les villes de Juda, Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Wow. Quelle est la première réaction de Josaphat? Il a peur. Et c'est normal. En effet, on cherche, on a des sentiments. On va souffrir, on va avoir la peur. C'est la première réaction. C'est normal, on est être humain. Mais qu'est-ce qu'il fait la première chose? Lui, il décide de consulter l'Éternel. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Mais je sais que je dois chercher Dieu. Mais en plus, qu'est-ce qu'il fait aussi? Qu'est-ce qu'il demande? Il proclama un jeûne pour tout Juda. Des fois, on a oublié le jeûne. C'est bien un outil pour combattre. C'est la parole, c'est la prière. Mais aussi le jeûne. Ce jeûne, c'est simplement, c'est pas de pas manger voilà, et survivre jusqu'à 18 heures. C'est pas ça. Un jeûne, justement, c'est concentrer, chercher à Dieu, parce qu'on a besoin de lui. Et on sait que la seule solution, c'est lui. Et tu vas te concentrer au Dieu. Ça, c'est le jeûne. Chercher à Dieu dans l'intimité. Toi. Et là, il dit tout le monde. Il dit à tout le monde. Imagine-toi que je viens ici et dis, bon, aujourd'hui, on fait le jeûne. Une semaine. Il y a des personnes qui vont le faire. Mais là, il dit que tout le peuple, il va faire le jeûne. Ça m'a touché. Mais après, on va voir pourquoi le peuple va le faire sans dire non. On va voir pourquoi. Et voilà, ça c'est le contexte. Voilà, qu'il a eu une guerre. Qu'est-ce qu'il a fait Josaphat? Voilà, qu'est-ce qu'il a eu? Voilà, il a senti la peur, normal. Et on va voir maintenant trois étapes. Dieu est, Dieu répond, Dieu agit. Dieu est. On passe dans la deuxième chronique. Par exemple, dans le 6 au 9. Et il va voilà faire la prière. On va entendre comment Josaphat prie à l'Éternel, à Dieu. Il pria ainsi: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? C'est pareil comme le Dieu notre Père, qui est au ciel. Toujours d'abord, il faut le chercher lui. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes du peuple? Tu disposes de force et puissance. Nul ne peut te résister. Regardez, le plus important, c'est une prière. Une prière, ce n'est pas de venir avec ta liste de courses en disant, voilà, y a ça. Oui, il faut le dire, mais d'abord, il faut se placer les yeux vers Dieu. Qui est Dieu pour toi? Dire ses attributs. Il est le Tout-Puissant. Force et puissance. Puissance, c'est la capacité de faire quelque chose. Et la force, c'est l'énergie, justement, pour faire cette action. Mais simplement, c'est en Dieu qu'on peut trouver ça. On continue pour voir qu'est-ce qu'il dit encore dans la prière. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ces pays pour faire place à ton peuple d'Israël? C'est le Dieu qui délivre. Et qui a donné ces pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait toi? Dieu est un ami. C'est ton ami. Des fois, après, il faut avoir du respect, de la révérence quand on parle à lui. Ce n'est pas que tu vas parler comme un pote. Il dit ton ami. Parce qu'il disait, Jésus-Christ, il avait dit, vous n'êtes plus serviteur de moi. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce qu'il fait le maître. Maintenant, vous êtes mes amis. Parce que vous savez, voilà, vous connaissez pas la parole. On continue, qu'est-ce qu'il dit en plus? Ils s'y sont établis, ils s'y sont construits un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ces sanctuaires. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors, tu écouteras et tu sauveras. Voilà la promesse. Il dit, du fond de notre détresse, il faut implorer Dieu. Regardez, déjà on est vainqueur. Il dit qu'il va nous écouter et il va nous sauver. Wow, avec une promesse comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire de plus nous? Mais des fois, voilà, nous on demande à Dieu quoi faire. Mais c'est pas ça. Il faut laisser tout sous le contrôle de Dieu. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Pourquoi on passe de ce type de situation? Pourquoi? Parce que Dieu veut travailler en toi. Il veut que tu sois, comme on dit, il veut fortifier ta foi. Il veut que tu sois HD. Je le dis HD, parce que tu sois humble et dépendant. Une personne humble va recevoir la grâce. Et si tu es dépendant de Dieu, ce n'est pas ta force voilà, qui va résoudre tout. Tu vas dépendre de Dieu. Le problème, c'est que nous, on cherche à Dieu après que nos forces sont épuisées. Parce qu'on essaye de tout contrôler. Si on a des problèmes de banque, c'est nous qui on fait les prêts. Si on a un problème avec nos enfants, notre couple, on essaye avec notre sagesse, notre intelligence, on essaye de résoudre le problème. Mais on n'utilise pas la parole de Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu pour corriger ça. Parce qu'on sait, c'est facile. Quand on cherche quelque chose, un télé, un écran, un ordinateur qui ne marche pas, on cherche qui? La personne qui l'a créé. C'est lui qui va le réparer. C'est pareil pour nous. Qui nous a créé? C'est qui nous connaît. Mais c'est nous qu'on essaye tout le temps de résoudre tout. Et qu'on est tranquille, on est dans la zone de confort. On n'a jamais avancé comme ça. On vit entre guillemets une vie paisible, mais ce n'est pas une véritable vie chrétienne. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2 ou 3, c'est marqué. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà. On vit une épreuve très difficile. Et on est exposé. Mais elle dit que le fruit de cette épreuve, c'est la patience. Ta foi va grandir. Tu auras la patience. Mais des fois, nous, vous résoudre tout rapidement. Que tout soit comme ça. Magique. Comme les assurances. J'appelle l'assurance, problème réglé. J'appelle le médecin, problème corrigé. Mais est-ce que d'abord, on a cherché à Dieu avant d'aller au médecin, avant d'aller au banquier? Et dans 12e Pierre, 2:9, regardez, on passe des épreuves, mais le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Josaphat ne sait pas quoi faire, mais il sait à qui s'adresser. Et maintenant, on va voir, on a vu d'abord qui est Dieu. D'abord, on loue Dieu avec qui est. Il est beau, il est puissant. Maintenant, voilà, ça vient la supplication. Dans 2 Chroniques 20, 10, 13, regardez ce qu'il dit. Maintenant, voici, le fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer comme il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Waouh! Là, il raconte qu'est-ce qu'il passe. Il ne dit pas à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que des fois, nous on dit, ah, j'ai un problème économique, Dieu, s'il te plaît, si tu peux valider le prêt de la banque, j'ai besoin de 5 000 euros, voilà, s'il te plaît, si tu peux que la banque accepte le crédit ou le prêt. Mais il ne dit pas ça, il ne dit pas qu'est-ce qu'il doit faire Dieu. Simplement, il dit le problème. Et des fois, nous, on force à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'il passe, il ne le fait pas. Alors, tu vas perdre la foi. Il faut venir avec tes supplications, il faut venir avec voilà, ton problème. Mais c'est Dieu qui va répondre à sa manière, à sa façon, dans sa grâce. Il ne faut pas l'imposer une prière. Et il sait comment on se trouve. Il dit, nous sommes sans force. Des fois, on ne peut plus lutter. Des fois, on dit, c'est bon, Seigneur, je ne peux plus. Mais qu'est-ce qu'il voit? Josaphat, il voit une multitude. C'est quoi le scénario? Il voit la peur. C'est quoi le scénario de Dieu? Il voit une multitude. Aussi, Dieu. Mais il va utiliser ces circonstances pour se glorifier. On va voir après. On continue dans... Voilà. Après, je me disais, on va voir le contexte, parce que, ok, on sait qu'est-ce que le problème de Josaphat. Mais qui est Josaphat? Vous savez, quand on était allé le jeudi pour se promener, on était allé voilà, faire la promenade, et on a passé un bon moment ensemble en famille. Mais Jérémy nous a rajouté l'histoire, la culture, et là, ça change la promenade. Ça donnait voilà, le contexte où on était, pourquoi on était. Voilà. Il faut savoir aussi le contexte. Il ne faut pas simplement se fixer. Je me dis pourquoi. Pourquoi ce Josaphat, il a eu peur. Si c'était un roi, il a aussi une armée. Et j'ai dû lire pour comprendre à Josaphat les autres chapitres. Chronique, roi, et qui était son père, et pourquoi il a eu peur. Parce qu'il fallait que je comprenne ça. Et il fallait revenir dans le chapitre 17 pour savoir qui est Josaphat. Regardez. Son corps grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda les autres lieux et les idoles. Voilà. Waouh, son corps grandit dans les voies de l'Éternel. C'est une personne comme nous. Une personne qui croyait en Jésus. C'était voilà, l'Éternel, son Dieu. Et en plus, regardez ce qu'elle a dit. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une division entre le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Parce qu'Israël est revenu à encore remettre les anciens idoles d'Égypte, voilà, les Baals. Et son père, Asa, il avait commencé à détruire les idoles. Et lui, il a vu ça, il a vécu ça, et il a fait la même chose. Il dit qu'il commençait à disparaître les idoles. Qui était en plus lui? Il dit en plus, la troisième année de son règne, il chargeait ses chefs, Benaïl, Agdias, Sachari, Nathanaël et Miché, d'y aller enseigner dans les Bibles de Juda. Regarde qu'est-ce qu'il faisait le roi. Sa priorité, enseigner la parole. Il envoya avec eux les Lévites, Semaïja, Netania, Sebadia, voilà, tous les noms, ainsi que les prêtres. Ils enseignèrent dans Juda avec le livre de la loi de l'Éternel. Il parcourt toutes les villes de Juda et enseigne parmi le peuple. Voilà. Regardez sa priorité d'un roi. C'est pour ça que je sais que quand il a demandé de jeûner au peuple, le jeûner, il savait déjà, parce qu'il avait enseigné ça. Comment il fallait prier, comment il fallait jeûner. C'est pour ça après j'ai compris pourquoi il avait demandé ça au peuple, et le peuple n'a rien dit. Parce qu'il connaissait la parole. Il enseignait la parole. Mais pourquoi il a eu peur? Parce que c'est un roi, il a une armée. Et dans le verset 7, 14, voilà, 14, on va voir l'armée qu'il avait. Là, j'étais étonné. Voici leur répartition en fonction de leur famille. Pour Juda, le chef des milliers était le chef Akna avec 300 000 veillants hommes. Et à ses côtés, le chef de Joshanan avec 280 000. Ensuite, 200 000. Après encore 200 000. Et à la fin, 180 000. Je fais le compte pour voir son armée. Elle disposait d'une armée de 1 160 000 hommes à sa disposition. Aujourd'hui, l'armée chinoise, il compte avec 800 000 hommes. La France, 118 000. Vous voyez qu'il avait une énorme armée, 1 million. Même pas aujourd'hui, on n'a pas une armée comme ça. Il a eu peur. J'imagine que les trois pays voilà, qui faisaient la guerre, il avait 3 millions, je ne sais pas. Parce qu'il a eu peur, dit. Avec une armée aussi puissante. Et maintenant, je connais le contexte. Lui, c'était une personne comme nous, qui cherchait Dieu. Mais il y a un jour, voilà, que tout s'accumule. Qu'il n'a pas un jour où tout s'accumule. J'ai un problème déjà avec ma famille. C'est ma fille qui se rajoute, c'est mon fils, c'est mes parents. Le travail, je perds mon travail. Je suis en colère avec mon couple. C'est une journée où tout s'accumule. Des fois, je dis, oh, je ne peux plus. Je vois pourquoi moi, que je suis à Dieu, que je crois en Dieu, que je suis sa parole. Pourquoi? Et on ne comprend pas. Lui, c'est une personne qui faisait le bien. Il enseignait la parole. Il avait enlevé les idoles. Mais pourquoi? Parce que nous, on se place sous les circonstances, comme je dis. Dieu, il a voulu que lui, il passe une épreuve comme Job pour fortifier sa foi. Maintenant, on va voir comment Dieu répond. Parce qu'il avait déjà fait sa supplication, voilà. Donc, chronique, voilà, on continue dans le chapitre 20, du 14 au 19. Alors, l'Esprit de l'Éternel s'assit au milieu de l'assemblée. Il y a Chassiel, fils de Sachari, fils de Benaja, voilà, fils. Et on va voir ici. Et il y a Chassiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ça peut être ton prénom aussi. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez. Ce serait Dieu. J'ai mis ne craignez point en rouge. Vous savez, ne craignez point, il apparaît 365 fois dans la Bible. Parce qu'il sait qu'un jour nous on va tomber. Mais il ne craignait pas pour chaque jour. Pour toi, pour moi, pour vous. Ce n'est pas ton combat. C'est lui qui va combattre pour toi. Après, qu'est-ce qu'il répond? Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Il dit demain. Pas aujourd'hui. Demain. Des fois, nous, on veut une réponse que Dieu va dire comme ça. Mais il dit demain. Pourquoi demain? Vous savez qu'on a vu la dernière fois, à chaque jour suffit sa peine. Il dit, t'inquiète pas. Dors tranquille. Vous vous rappelez du verset que je dois me coucher en paix parce qu'il sait qu'on est fatigué. Il sait que tu es épuisé, que tu as pleuré, que tu as souffert. Mais il dit, repose-toi. Repose-toi, prends des forces. Mais, on va voir ce qu'il y a après. Verset 17 au 18. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Là, des fois on dit, faut prier, mais faut rester calme. Des fois, oui. Mais là, il dit, présentez-vous. Il dit, ok, je vais combattre pour toi. Mais, bien quand même. Bien dans la bataille. Nous, notre armure, des fois, on n'utilise pas l'armure de Dieu. Je ne vais pas parler de l'armure aujourd'hui parce que c'est très complexe. Mais on a une armure, on a une ceinture, un casque, on a une épée, on a des sandales. Mais je ne vais pas parler de ça parce que c'est trop complexe pour expliquer. Mais des fois, on va tout nu à la bataille. Mais lui, il dit, viens quand même. Je sais que des fois, on pleure et on ne veut plus chercher Dieu. On est fatigué de prier. Et des fois, on dit, ça ne sert à rien. Mais au moins, il veut que tu viennes. Que tu te mettes au genou. Si tu n'as pas de mots, ne dis rien. Mais au moins, il faut se prosterner devant lui. Il faut que tu sois là. Un père souffre pour ses enfants. Vous savez que les parents, quand on a un enfant qui est malade, vous souffrez. Dieu souffre pareil pour nous. Il connaît ta souffrance. Mais il veut que tu viennes vers lui. Tu n'as rien à dire. T'inquiète. Mais mets devant lui, à genoux. Tu ne sais pas quoi dire. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Mais je suis là. Crois-moi. Que ça vaut mieux que 1000 paroles sorties d'un somme. Parce que là, c'est avec ton corps sincère que tu vas parler. Et c'est ça que Dieu veut. Que tu viennes avec ton corps sincère. Oublie-toi de les circonstances. Regarde les yeux sur lui. C'est ce qu'on a vu jeudi. On m'appelle. Qu'on a chanté ensemble comme le peuple de Juda. Je lève les yeux vers la montagne. On avait chanté ça. Où se trouve le secours? Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Des fois, simplement, il faut s'humilier devant la présence de Dieu. C'est ça qu'il cherche. Parce que nous, on a d'autres outils pour combattre, mais on n'utilise pas. on ne s'humilie pas devant Dieu. Parce qu'on croit que nous, on est capable de faire tout. Donc, au verset 19 au 21, les Lévites, d'entre les fils de Kehatit et d'entre les fils de Coréite, célébrèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, là c'est quelque chose qui... Wow. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Quand on voit dans une bataille, dans une guerre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait une armée? C'est qui le premier groupe qui part? C'est l'infanterie. Les soldats, voilà, qui vont se battre corps à corps. Mais là, on en voit qui? On en voit un ministère de louange. On va dire, non, on ne va pas se battre. On va louer à Dieu. C'est incroyable. Savez pourquoi on fait la louange avant de faire la prêche, la prédication? Parce que des fois, on vient dans une bataille. Pour certaines personnes, on vient dans un combat encore qu'on est en train de vivre. Pour des autres personnes, simplement, on vient pour glorifier à Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais là, il venait. Louer l'Éternel. On a vu des chants. Que c'est lui, c'est à lui la louange. Car sa miséricorde, pour moi, miséricorde, c'est l'amour inépuisable. Car son amour inépuisable dure à toujours. Il faut louer. Mais si tu es triste, si tu es dans la joie, dans tout le temps, à chaque moment, il faut le louer. Ça, c'était leur hymne de bataille. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. J'imagine, en train de marcher. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Je ne sais pas, avec un chantique, avec les Lévites, tout ça. Et c'est pareil pour nous. On a vu tout ça dans la semaine, qu'on est ensemble, en famille. C'était bien de voir tous réunis pour la promenade, de louer l'Éternel, de passer un bon moment, parce qu'on a un corps. Et c'est pour ça que Josaphat, ce n'était pas tout seul qui priait, c'était avec le peuple. Il dit, avec leurs femmes, leurs fils, leurs enfants, parce qu'on est une famille. Et s'il y a quelqu'un, une partie de notre corps, le doigt, le cœur, les yeux, l'oreille, c'est qui souffre? Tu crois que c'est l'œil simplement qui souffre? On est tous un seul corps. Et c'est pour ça que c'est un combat. Et nous tous, comme l'a fait le peuple de Juda avec Josaphat, on doit prier pour notre frère. Parce que si nous on est venus, tout le monde est venu. Dans Psaume 34, le... versets 12, 6 et 7. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. Et vous savez, j'ai parlé encore, mais Josaphat, il avait déjà vécu ça avant aussi. Quand il était avec le roi Acab, il avait une bataille aussi, et il était entouré par le peuple, je me rappelle, syrien. Il disait qu'il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel l'a sauvé. Il était entouré de soldats. C'est pour ça qu'il connaissait son Dieu. Nous, on connaît notre Dieu. Mais je sais que des fois, on passe des moments difficiles. Je sais que des fois, on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on est simplement épuisé. Et des fois, on veut abandonner. On dit la phrase française, comme si c'était jeter l'éponge. On veut jeter l'éponge. Et maintenant, on va voir comment Dieu agit. Voilà, comme ça, on va finir avec... On a vu comment Dieu répond, maintenant, comment Dieu agit. Parce qu'il avait répondu, il a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Maintenant, comment il agit. Dans le verset 22-23. Il est en train de marcher, il est en train de louer. Et là, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. C'est une embuscade qu'il a fait, c'est lui qui a combattu. Ils ne sont pas même sortis l'épée pour lutter. Le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et l'exterminer. Et quand ils sont finis avec les habitants de Seir, ils se dérèrent les uns les autres à se détruire. Voilà. Ils se sont entretués eux-mêmes. Et dans le 24 au 30, voilà, on va voir qu'est-ce qu'ils ont passé. Ah oui, dans le 24 au 30, on va le lire rapidement. Lorsque Juda fut arrivé sur le tor d'où l'on aperçoit le désert, il regarde du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Je ne sais pas combien de personnes, 3 millions qui sont morts. Je ne sais pas si c'est eux, c'était 1 million. Tu imagines voir 3 millions de personnes mortes. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils s'en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils ont pris 3 jours pour ramasser tout le butin. 3 jours. Imaginez-y tout le trésor qui s'est trouvé en plus. Ce n'est pas simplement qu'ils ont gagné. Et en plus, il y a un bouton derrière. Et le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi il appelle ce lieu vallée de Beraka. Pourquoi Beraka? Ça veut dire bénédiction. Vous voyez, les choses qui étaient très mauvaises, comme on dit la parole, les choses mauvaises, Dieu a converti, voilà, il change, et tout passe en de bonnes choses. C'est incroyable, là. Comme la croix. La croix, c'était le pire jugement qu'on faisait à l'époque. Mais Dieu, il a changé ça aussi. Parce que la croix, maintenant, on la voit, nous, comme on l'a. Le salut. C'est Dieu qui fait comme ça tout. Tout pouvoir, tout qui tombe devant toi. Mais lui, il va changer tout ça. Il dit que nous, on va traverser dans les vallées de la mort. Et on traverse. Il ne va pas dire que tu vas rester là. Ça, c'est une épreuve. Et c'est une vallée, vous savez, une vallée se trouve autour des montagnes. Et après que tu traverses la vallée, il faut monter. La montagne représente Dieu. Ça, c'est temporaire. Ce n'est pas ton identité. Ça, c'est temporaire. Et en plus, regardez, il a tué les personnes. On a reçu un butin. En plus, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. Car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de luth, voilà, de harpes et de trompettes. Ils sont retournés encore en train de chanter. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et la série sur gâteau. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Wow. Quand Dieu travaille, quand Dieu il agit, c'est d'une façon complète. Dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. C'est pas simplement ce qu'il avait demandé. De combattre ses ennemis, d'aller allé plus loin. Ses bénédictions à lui, c'est plus loin. Des fois, nous, pour résoudre des choses, avec notre force, avec notre intelligence, mais c'est limité. Tu auras peut-être une bénédiction comme ça, mais avec Dieu, tu auras tout. Simplement, il faut le chercher. Il faut rester. Faut persévérer. C'est pas facile. Si tu as un jour, tu dois prendre un jour pour pleurer, prends-le. Si tu as un jour pour être triste, prends ton jour de tristesse. Mais le lendemain, c'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité, comme on dit. À chaque jour suffit sa peine, comme la dernière fois qu'on a vu. Amen.